Les cours du Collège de France, Franck Courchamp, chère biodiversité et écosystème.
Bonjour. Bienvenue à ce troisième cours sur les invasions biologiques. Donc ce cours est un petit peu particulier parce que les deux premiers cours, on a essayé de montrer un petit peu pourquoi les espèces exotiques envahissantes, ou plus exactement les invasions biologiques, étaient problématiques. Pourquoi ça avait un impact écologique important, un impact économique important, un impact sanitaire important. Et pourtant, on avait quand même une prise de conscience très en décalage avec, avec ces trois points. Et donc aujourd'hui, on va parler de scepticisme et de dénialisme. On va essayer de comprendre si... S'il y a un problème avec les invasions biologiques, s'il y a une forme de déni organisé ou pas. Et donc, je vais vous parler d'abord un petit peu du dénialisme scientifique pour faire un petit peu une introduction générale pour essayer de placer les choses dans un contexte plus classique, on va dire, avant de parler du cas particulier des invasions biologiques qui, vous allez voir, est particulier. Non, d'abord, je vais vous parler des invasions biologiques et de son dénialisme, et après seulement, je vais expliquer pourquoi il est particulier. Donc, vous allez voir qu'il est particulier dans la deuxième partie, et dans la troisième, je vous expliquerai pourquoi. Alors, en général, déjà, il faut un peu définir ce que c'est. C'est un refus d'accepter une vérité malgré des preuves accablantes, sans justification rationnelle. Donc, c'est ça qui est important. Là-dedans. Donc, c'est différent du doute. Le doute, c'est un processus qui est en science sain et constructif, de remise en cause. Hein. On remet tout en cause, c'est comme ça qu'on progresse. Et le dénialisme, c'est le refus malgré les preuves rationnelles. Et c'est différent de la dissonance cognitive, je ne sais pas si vous êtes familier avec ce terme, qui est une tension entre cognition, croyance, émotion, attitude. C'est un petit peu comme quand... Moi, je continue à prendre l'avion alors que je sais très bien que ça contribue de manière importante au changement climatique et qu'il ne faudrait pas que je prenne l'avion, voire même que j'explique aux gens qu'il ne faut pas qu'ils prennent l'avion. Donc, un décalage entre mes connaissances, mes pensées, mes valeurs et mes actes. Donc, c'est la tension interne que provoque la contradiction entre les différentes cognitions et comportements paradoxaux. Et en fait, pour réduire cette contradiction... Et cette dissonance cognitive, en fait, il y a le cerveau adapte des stratégies spécifiques, l'évitement, le déni, la justification, la compensation. Donc, j'y pense pas. Ou alors, je justifie que oui, mais pour la science, c'est important que... etc. Alors, il y a différents types de dénialisme. Hein. Il y a le personnel, donc individuellement, des croyances individuelles qui vont nous pousser à être dans le déni... permanent, de manière professionnelle, donc c'est aussi individuel, mais cette fois-ci, c'est motivé par un agenda qui s'appuie sur une expertise, qui est en général une pseudo-expertise, on va le voir, et puis il y a le dénialisme institutionnel, celui qui pose quand même des problèmes, des industries au sens large, qui vont nier des faits pour préserver leurs intérêts. Alors ce dénialisme institutionnel, il va répondre à des intérêts économiques, politique ou religieux. Je vais vous donner des exemples dans chaque. D'abord, économique. Bon, on sait bien, avec ce bouquin de Oreskes et Conway, qui s'appelle « Les marchands de doute », dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui est assez fascinant, et qui montre comment les grands groupes industriels ont organisé des campagnes, du tabac, du climat, d'insecticides, des campagnes avec des stratégies structurées de déni pour contrer l'acceptation scientifique qui mettait en avant des faits qui pourraient nuire à leurs activités économiques. À côté de ça, on a des dénialistes qui est motivé par la religion, donc c'est quelque chose qui est vraiment complètement différent. Un exemple, c'est l'évolution, par exemple. Je ne sais pas si vous avez entendu parler il y a quelques années de cet Atlas de la création que j'ai reçu un jour dans ma boîte aux lettres, un magnifique bouquin gigantesque, énorme, très luxueux avec plus de 45 000 illustrations, très belles, papier glacé, des choses qui à 90% ont l'air très solides scientifiquement. mais à 90%. En fait, c'est un ouvrage créationniste qui a été envoyé gratuitement à des dizaines de milliers d'exemplaires dans les écoles, dans les instituts, à des chercheurs, en Europe et aux États-Unis. En France et en Belgique, on en a reçu 2000 exemplaires. Au final, ça a été vendu plus de 1,5 million de fois dans le monde. Et c'est un livre qui, comme il est basé sur la science à 90%, et comme il est magnifique et comme il est gratuit, il a été très accepté un petit peu partout. Mais c'est vraiment un ouvrage créationniste à 100%. Et puis, il y a le dénialisme qui est motivé politiquement, qui est encore une catégorie vraiment très, très différente, où on a certains courants politiques qui vont être fortement ancrés, traditionnellement, dans le déni de certains faits scientifiques. Par exemple, aux États-Unis, les républicains et le changement climatique, si vous êtes républicain, vous êtes censé être a priori contre le changement climatique. Enfin, quand je dis contre la croyance de... des démocrates qu'il y a le réchauffement climatique. Et on voit ici sur cette carte où plus c'est rouge, plus c'est important, plus c'est bleu, moins c'est important, et au milieu c'est jaune. On voit ici en fait les pourcentages de gens qui disent penser que le réchauffement climatique existe. Et on voit bien que du côté des démocrates, on est vraiment dans des taux élevés, mais du côté des républicains, en fait, on est vraiment par ici. Une grosse différence. Donc ça, c'est une photo d'Australie, c'est-à-dire c'est pas que les États-Unis. Hein. Et puis, il y a tout un discours qui est mis dessus pour essayer d'expliquer pourquoi le changement climatique, c'est un canular, que c'est en fait une stratégie des socialo-communistes pour essayer de... Donc, et que la pauvre Greta Thunberg, en fait, elle a un lavage de cerveau avec un agenda politique. Donc là, c'est vraiment au niveau politique. Et si vous êtes démocrate et que vous vous positionnez en faveur de penser qu'il y a un problème avec le changement climatique, ben, vous êtes un peu un traître dans le parti. Un autre exemple pour le dénialisme politiquement motivé, c'est celui qui concerne le déni du VIH comme cause du sida. Deux exemples contrastés, en Afrique du Sud et aux États-Unis. Donc en Afrique du Sud, en 2000, il y a eu la création d'un panel officiel qui conteste le lien entre le VIH et le sida et qui va prioriser de manière officielle et donc retirer qui va prioriser des remèdes non prouvés, donc à base de, là, c'était betterave, ail, jus de citron, et qui va retirer les rétrovirus, l'accès des rétrovirus au marché. Donc c'est quelque chose au niveau gouvernemental. Ça a mené, on le sait, à plus de 350 000 décès qui auraient pu être évités et qui sont dus directement à un dénialisme politiquement motivé, puisque on avait là des preuves scientifiques que le VIH causait le sida. Aux États-Unis, on a failli avoir à peu près la même chose. Donc, en 1984, donc très tôt après la découverte du sida, un scientifique qui s'appelle Schmidt a publié dans un journal qui n'était pas un journal médical, hein, Journal of Psychohistory, un article qui s'appelait The Group Fantasy Origins of AIDS. Et qui expliquait qu'en fait, le sida, ce n'est pas vraiment une maladie, c'est plutôt un exemple d'hystérie épidémique. Donc, cet article, qui était un article d'opinion, hein, pas un article de fait scientifique, et qui était quand même un petit peu, on va dire, original, sinon excentrique, il a été suivi par très peu de scientifiques, très minoritaires, mais des scientifiques très actifs au niveau des médias, etc., qui ont alimenté cette controverse. Et ça, en fait, ça a fait qu'un large public a été embarqué là-dedans et a été influencé par ça, parce que souvent, lorsque un scientifique se met à contre-courant, les journalistes lui donnent un droit de parole égal et le public, au nom du fait qu'on a le droit d'exprimer une opinion différente, vont donner plus de crédit à cette opinion que proportionnellement elle en a dans la communauté scientifique. Heureusement, la politique officielle qui repose sur la science a pris le pas sur le dénialisme. Et pour la petite histoire, Schmitt est mort du sida 10 ans plus tard. Politiquement motivé, actuellement, ça existe encore. Donc aux États-Unis, actuellement, RF Kennedy a été nommé ministre de la Santé par le gouvernement Trump. Je ne sais pas si vous connaissiez ou connaissez maintenant encore un petit peu ce personnage. Il est quand même assez spécial. Mais c'est surtout un vaccino-sceptique notoire qui est persuadé que les vaccins mènent à l'autisme et qui, en tant que ministre de la Santé, fait des communications anti-vax. Dans le même gouvernement, Weldon a été désigné pour diriger le CDC et c'est aussi un vaccino-sceptique et il a déjà tenté de retirer au CDC le droit de décider de la politique de vaccination. Donc quelque chose vraiment politiquement motivé, assez fort. Il n'y a pas qu'aux États-Unis, en France également, et notamment lors de l'épidémie de Covid, des personnalités politiques et des groupes d'extrême droite ont remis en cause l'efficacité des vaccins et ont promu des théories du complot. Alors, le dénialisme des scientifiques, il existe aussi. Il y a des scientifiques qui vont s'engager dans le dénialisme en invoquant, en général, le courageux scientifique indépendant résistant à l'orthodoxie et en général en citant Galilée qui était seul contre tous et qui avait raison. Ce qui en général est une logique fallacieuse parce que c'est pas parce qu'il était seul contre tous et qu'il avait raison que tous ceux qui sont seuls contre tous ont raison. Et ça a fait dire à Goertzel que être un dissident de l'orthodoxie, c'est pas difficile en fait. Il suffit de dire le contraire de ce que tout le monde dit. Ce qui est difficile, c'est d'avoir une meilleure théorie. Et il est important de publier des théories dissidentes lorsqu'elles sont étayées par des preuves plausibles. Mais ça ne signifie pas qu'il faille donner aux critiques un temps égal pour s'opposer à chaque découverte d'un scientifique du courant dominant. Et ça, c'est un petit peu le problème qu'il y a actuellement en science et qui a eu lieu, pour, par exemple, avec tout le problème de l'émergence de la prise de conscience du changement climatique, c'est qu'il y avait un temps égal de parole entre les 95-99% de scientifiques qui expliquaient que le changement climatique était réel et les 1 à 5% qui disaient qu'il n'était pas réel ou il n'était pas causé par l'homme ou on n'a pas assez de données pour savoir, etc. Et en fait, si on parle de dénialisme, c'est que c'est quelque chose d'organisé. C'est quelque chose d'organisé, structuré et qui est basé sur des techniques. Des techniques qui sont toujours les mêmes et qui sont toujours utilisées et qu'il est donc assez facile de reconnaître. Ces techniques, elles servent à semer le doute, donc il y a des campagnes médiatiques qui sont organisées, à décrédibiliser les scientifiques, à manipuler les données ou à les noyer avec des fausses données ou des données qui n'ont rien à voir et à appeler aux émotions plutôt qu'à appeler à la raison. En fait, ces techniques, elles sont divisées en 5 grandes catégories. Les faux experts, les erreurs logiques, les attentes irréalistes, ce qu'on appelle le picorage ou le cherry picking en anglais, et les théories du complot. En fait, c'est même plus compliqué que ça, puisque ces 5 techniques, elles sont à chaque fois développées, déclinées en plusieurs possibilités. Toutes qui sont bien identifiées, détaillées, donc on a des techniques, des définitions et des exemples. Alors évidemment, vous ne pouvez pas lire ici, mais vous pouvez regarder sur le site web qui donne non seulement toutes ces définitions, mais qui explique ces techniques en détail. Donc c'est un skepticalscience.com, c'est un site web qui est vraiment, vraiment très bien fait. Alors, je vais vous donner maintenant quelques exemples de dénialisme dans l'histoire récente et vous allez voir que ce n'est pas juste du doute scientifique. Le changement climatique, c'est souvent celui qu'on évoque en premier parce que c'est celui qui peut-être a fait le plus de bruit. On sait que ExxonMobil a eu des stratégies de marketing et de lobbying très intenses dès les années 70, si je ne me trompe pas, avec de la dissimulation d'études climatiques internes, c'est-à-dire que c'était les scientifiques de cette entreprise qui avaient alerté sur les problèmes de changement climatique. Et c'est eux qui non seulement les ont étouffés, mais qui après ont eu des campagnes pour essayer de diminuer et de dissimuler ces faits scientifiques. Et ça, c'est important parce que les conséquences, ça a été un retard important sur les mesures de lutte contre le réchauffement climatique. Et maintenant, même l'objectif de limiter à 2 degrés, on était, il y a quelques années, on voulait limiter à 1,5 degré. Maintenant, 2 degrés, ça semble quand même encore assez irréaliste. Et actuellement, on a encore, du fait de ce retard, 30 à 40% de climato-sceptiques, aussi bien aux États-Unis qu'en France. Quand j'ai préparé ce cours, en fait, je ne pensais pas qu'en France, c'était aussi élevé. Il y a des chiffres sur la France qui m'ont vraiment, vraiment surpris. Donc là, vous voyez, hein, 31 millions qui a été injecté pour créer le doute sur le changement climatique. Et en fait, la recherche interne montrait qu'il y avait vraiment un changement climatique. Donc c'est ça qui est vraiment le plus cynique dans l'histoire. Un autre exemple qui est assez fort, c'est les cigarettes et la santé. Dès les années 50, on a les premières preuves du lien entre le tabac et le cancer. Et pendant des années, malgré ces preuves-là, on va avoir des campagnes, pas seulement des campagnes pour le tabac, mais des campagnes qui expliquent qu'elles sont bonnes pour la santé. Leurs cigarettes, à elles, sont absolument pas problématiques et même les docteurs fument, ce qui n'est pas un argument. Dans les années 90, il y a eu des procès contre les cigarettiers qui ont montré qu'il y avait eu en fait des décennies de désinformation malgré la connaissance qu'ils avaient des problèmes de santé. Actuellement, on a encore 15% des fumeurs qui nient les effets nocifs du tabac sur la santé. Bon, ça veut dire qu'on a 85% des fumeurs qui se disent « oui, c'est pas bien, je devrais arrêter, c'est mauvais pour la santé », mais on a quand même encore 15% qui disent « non, c'est faux, il n'y a pas de problème ». Et pourtant, le tabac tue encore 8 millions de personnes par an. L'évolution, ouais, j'ai parlé du livre tout à l'heure, en fait, c'est un rejet pas seulement religieux, c'est aussi culturel et politique, de la même manière que les républicains sont en général opposés au fait qu'il existe un changement climatique, ils sont opposés souvent au fait qu'il existe l'évolution. Et en fait, il n'y a pas qu'aux États-Unis. Si vous regardez ici tous les pays, donc en vert, ce sont les gens qui pensent qu'effectivement, il existe une théorie de l'évolution. Et puis en bleu, c'est ceux qui pensent que ça n'existe pas. Et en rose, c'est ceux qui ne savent pas trop, qui ne sont pas sûrs. Et 40% encore des Américains ne croient pas en l'évolution. Et en France, il y a quand même encore 15% qui ne croient pas en l'évolution. Dans la théorie de l'évolution, la théorie darwiniste. Donc la théorie darwiniste qui est différente de celle de ce qu'on appelle le dessein intelligent, qui fait que oui, il y a de l'évolution, mais c'est Dieu qui a un objectif et qui va pousser cette évolution dans un sens très, très particulier. Ce n'est pas du tout le couple mutation-sélection. Et alors, en fait, dans cette courbe, on voit que les gens qui croient, on va dire ici en rouge, au créationnisme, c'est-à-dire la Terre a été créée, je ne sais plus, il y a 5-6 000 ans, telle qu'elle est maintenant, c'est énorme, hein, 40% à peu près, c'est stable dans le temps, mais ce n'est pas la majorité. Par contre, c'est difficile de dire ceux qui croient pour un truc scientifique. La science, on ne croit pas, c'est les faits. Mais bon, par abus de langage, on va dire ceux qui croient ou qui admettent la théorie de l'évolution, mais en fait, ils sont ils sont passés à 20%, donc ça a un peu augmenté. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il y a tout ce qui est intelligent design qui est à peu près à la même hauteur que les créationnistes. Malgré les preuves constantes d'évolution. Les vaccins, c'est quelque chose de très récent, avec aussi beaucoup de désinformation. Donc, en fait, ce lien entre le vaccin et l'autisme, dont on entend souvent parler, à quoi il est dû ? Il y a eu une étude qui liait ces deux faits, et qui était une étude frauduleuse. C'était une étude malhonnête de quelqu'un qui voulait faire passer un message et qui avait truqué ses données. Qui l'a reconnu après, donc on sait que c'est une étude frauduleuse, et malgré le fait que ça a été débunké, comme on dit, c'est resté quand même un petit peu dans les légendes urbaines. Et ça a eu un impact important, puisque ça a causé une baisse de couverture vaccinale générale, notamment aux États-Unis. Et vous savez qu'il y a une épidémie de rougeole en ce moment aux États-Unis, qui pourrait être totalement évitée s'il y avait une couverture vaccinale normale, mais c'est dû au fait que cette couverture est en baisse, et que Robert Kennedy, dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est en charge de ça, fait constamment passer des messages anti-vax ou, dans le mieux, des messages ambigus. Donc ça continue à être repris, pas seulement aux États-Unis, hein, en France également, ce lien entre le vaccin et l'autisme. Et puis il y a aussi des liens entre le vaccin et une puce 5G, une nanopuce, donc quelque chose qu'on ne peut même pas voir au microscope, hein, c'est nano, et qui servirait à pouvoir repérer nos mouvements, suivre les personnes et qui auraient été injectées dans les vaccins pour pouvoir nous suivre. Et bien, il y a encore 7% de gens qui pensent que c'est le cas en France, hein. Mais il y a aussi 28% de gens qui disent « je ne sais pas », malgré la science qui montre que ce n'est pas le cas. Les insecticides, c'est moins connu, mais c'est tout aussi organisé et tout aussi démontré, notamment pour les néonicotinoïdes et le glyphosate. Donc une minimisation des impacts sur les pollinisateurs et sur la santé humaine, et qui a été notamment causée par des industriels de l'agroalimentaire qui ont financé, en fait, là c'est une stratégie ce qu'on appelle de noyade, donc qui ont financé des études sur des causes alternatives de l'effondrement des abeilles. Vous savez que les abeilles domestiques ont des populations qui généralement s'effondrent. Les hypothèses les plus à la fois parcimonieuses et les plus démontrées, c'est que ce sont ces insecticides qui, comme leur nom l'indique, sont des tueurs d'insectes, qui tuent ces insectes. Mais en écologie, c'est jamais simple. Il y a toujours des causes multiples et des causes simultanées, souvent des synergies. Et donc, en fait, la stratégie de ces groupes industriels dans l'agroalimentaire, ça a été de financer beaucoup d'études sur les maladies, les parasites, comme le varroa, le changement climatique, pour expliquer que ça joue. Alors oui, ça joue forcément, mais la résultante d'énormément de publications qui vont sortir sur le fait que telle et telle maladie a un impact sur telle et telle ruche, va en fait diluer l'impact des insecticides, qui est de loin la cause principale de déclin des abeilles domestiques, des pollinisateurs en général et des insectes encore plus généralement. Donc les conséquences, c'est des retards dans la législation et dans son application, notamment en France, pour ces deux insecticides majeurs, malgré, on le rappelle, hein, 75% des insectes volants en Europe ces 30 dernières années, une étude allemande qui a été publiée il y a quelques temps. Il y a une étude britannique qui a été publiée, je ne sais plus, il y a deux semaines, qui montre également, donc vous avez souvent entendu parler de ces histoires de plaques minéralogiques ou de pare-brise, hein, quand vous étiez petit et que vous partiez en vacances. Ah non, vous êtes tous à la retraite, il n'y avait pas de voiture quand vous étiez petit. Donc quand vous étiez petit et que vous partiez en vacances, vous vous souvenez qu'à l'arrivée, le radiateur était plein d'insectes écrasés, qu'il fallait nettoyer le pare-brise assez régulièrement, chaque fois qu'on s'arrêtait pour prendre de l'essence ou pour ouvrir le capot pour que le moteur remette de l'eau dans le radiateur et tourner la manivelle. Il fallait nettoyer le pare-brise parce que c'était bourré d'insectes. Bon, maintenant, ça n'arrive plus du tout. Et en fait, ça a fait réaliser à des scientifiques qu'il y avait peut-être un moyen de quantifier en fait cette perte d'insectes. Et donc, ils ont établi un protocole où ils regardent sur les plaques minéralogiques. Donc, c'est un carré assez standard, positionné de manière assez standard, avec des couleurs assez standards. C'est blanc, c'est noir sur fond blanc. Et en fonction du trajet, de la distance, etc., et puis en fonction du temps, eh ben, ils ont pu démontrer qu'il y a eu un déclin des insectes volants assez important en Grande-Bretagne ces dernières années. Et puis, je n'ai pas résisté à la tentation de vous parler des platistes. Alors, les platistes, c'est ceux qui pensent que la Terre est plate, malgré la science. Alors, c'est un petit peu extrême, on va dire, comme exemple, mais pas tant que ça. Déjà, 7 millions d'Américains qui sont persuadés que la Terre est plate, donc ce n'est pas, pas rien du tout. C'est en général, quand on essaie de comprendre, mais pourquoi est-ce que la science ferait croire que la Terre est plate, ben en fait, ils pensent qu'il y a un complot mondial qui essaye de cacher cette vérité. J'ai entendu des gens dire que l'Australie n'existait pas, c'est des acteurs qui parlent avec un accent pour faire croire que, etc. Donc, en fait, la théorie du complot va essayer de toujours trouver des arguments pour valider cette théorie, quels que soient les faits qui sont mis devant nous. Et puis, rigolez pas trop, parce qu'en France, 9% des Français pensent qu'il est possible que la Terre soit plate. Qui rigolait pas trop, mais moi, c'est en fait, ça m'a fait m'arrêter de me moquer des Américains quand j'ai vu ça. Alors, le dénialisme dans les invasions biologiques. Est-ce qu'on a la même chose dans les invasions biologiques? Vous vous rappelez que je vous ai parlé du paradoxe des invasions biologiques, le fait que ni le public ni les décideurs ne sont vraiment conscients de ce problème, qui pourtant est un problème majeur. Au même titre que la pollution, la déforestation, enfin la dégradation de l'habitat, etc. On a d'énormes problèmes écologiques, on a d'énormes problèmes de santé, on a d'énormes problèmes sociaux et on a d'énormes problèmes économiques. Et pourtant, les invasions biologiques sont peu connues ou sont peu reconnues comme un problème et on va le voir tout au long de cette heure. En fait, si vous regardez bien, hein, changement climatique, pollution, surexploitation, destruction, 4 des 5 causes, vous les connaissiez déjà avant de venir par cœur. Bon, je suis sûr que certains d'entre vous connaissaient les invasions biologiques, mais pas au niveau de ces 4-là. Et si vous regardez à la radio, dans les journaux, etc., c'est vraiment quelque chose qui est en dessous des 4 autres. Et ça, c'est dû à un... quelles sont les conséquences de ce manque d'information? Eh bien, c'est un manque de connaissances et un manque de sensibilisation, c'est assez logique. Ça va mener au scepticisme, c'est-à-dire au doute des affirmations, mais jusqu'à ce qu'elles soient soutenues par des preuves solides ou reproductibles. Donc, en science, on est tous des sceptiques, par défaut. J'espère que dans votre vie de tous les jours, vous êtes sceptique, vous ne vous prenez pas pour agent comptant tout ce qu'on vous dit, vous attendez d'avoir des preuves. Par contre, la même chose peut mener, pas au scepticisme, mais au dénialisme ou au négationnisme. Alors, c'est un petit peu la même chose, même si le négationnisme est en général réservé pour une autre catégorie de dénialisme. Mais on peut faire aussi la différence en disant que le dénialisme, c'est le refus d'accepter une réalité ou un fait, souvent parce que c'est émotionnellement inconfortable ou que c'est incompatible avec ses croyances. Alors que le négationnisme, c'est un rejet délibéré et organisé d'un fait établi ou d'un consensus scientifique. Donc, on peut aussi avoir une graduation là-dedans. Là, je vous ai mis deux en-têtes d'articles de deux journalistes assez récents qui expliquent qu'il faut arrêter de démoniser les espèces exotiques envahissantes et que les conservationnistes, les gens qui protègent la biodiversité, en fait, des fois, tuent beaucoup, beaucoup d'animaux. Et ça, ce sont deux articles journalistiques qui se placent contre le fait que les invasions biologiques sont un problème malgré tout ce qui existe dans la littérature là-dessus. Donc, évidemment, on a le droit de douter. C'est important de douter. Et c'est important de remettre en question les choses. Donc, on sait très bien que dans la science, il y a toujours une part d'incertitude. Et cette part d'incertitude, elle est particulièrement élevée en biologie et encore plus en écologie. En physique, lorsqu'on a de l'incertitude, c'est souvent attribué... à l'incertitude qui est due à l'appareillage. En écologie, l'incertitude est une part inhérente et même des fois un objet d'étude en soi. Et le doute et le débat scientifique, en fait, ça fait part du processus scientifique. C'est comme ça qu'on remet en cause des dogmes qui, en fait, finalement, étaient basés sur des erreurs. Mais dans la démarche du dénialisme et du négationnisme, l'incertitude qui est obligatoire, elle est toujours exploitée pour faire penser qu'il y a un débat équilibré dans des cas où, au contraire, il y a toujours un large consensus scientifique, comme c'est le cas dans les invasions biologiques. On va le voir. Et donc, en fait, ce qui est intéressant comme approche pour les invasions biologiques, c'est d'essayer de voir si on a un désaccord scientifique ou si on a du dénialisme ou du négationnisme. Et en fait, les invasions biologiques, c'est un petit peu particulier parce que ce doute et cette incertitude, elle est plus importante qu'ailleurs pour différentes raisons qu'on va voir par la suite. Mais une des choses importantes, basiques, on va dire, c'est que les concepts et les définitions sont parfois assez flous et parfois évoluent. Par exemple, je vous ai expliqué un petit peu ce que c'était qu'une espèce exotique envahissante. En fait, il y a dans la communauté scientifique des experts, deux écoles. Il y a ceux qui pensent que dès qu'une espèce exotique envahissante s'établit et se disperse, c'est une invasion biologique, c'est une espèce exotique envahissante. Et puis il y en a d'autres qui disent que c'est le cas uniquement à partir du moment où elle a un impact écologique. Deux écoles différentes. Bon, les gens ils se parlent encore, hein, mais ils sont. Quand on écrit des articles ensemble, et ça nous arrive régulièrement, dans l'introduction, souvent, il faut qu'on mette la définition. Bah, déjà, on dit « Ah non, j'ai pas la même définition que toi ». Ça c'est quelque chose de vraiment très important, mais c'est pas la seule chose. Une espèce qui va se déplacer toute seule, donc je vous rappelle que les invasions biologiques, c'est un déplacement par les activités humaines, par l'homme, par l'humain, d'un continent à l'autre, etc. Mais si vous faites un trou entre la mer Morte et la Méditerranée, et puis que vous laissez faire, et que là il y a plein d'espèces, 300 espèces de poissons, qui vont passer de la mer Morte, de la mer Rouge, pourquoi j'ai dit la mer Morte ? De la mer Rouge à la mer Méditerranée. Est-ce que c'est une espèce exotique envahissante ? Ce n'est pas les humains qui les ont pris et qui les ont déplacés, mais les humains, ils ont fait un trou entre les deux. Et là, les gens ne sont pas d'accord non plus. Une espèce qui va se déplacer avec le changement climatique, qui va progressivement suivre son optimum climatique au fur et à mesure que l'hémisphère nord se réchauffe, qui va monter au nord, pareil pour le sud. Est-ce que c'est une espèce exotique envahissante? Elle bouge toute seule, c'est pas nous qui la déplaçons. Mais elle bouge suite au changement climatique qui est une activité humaine. Là encore, c'est un petit peu flou, on sait pas trop. Et puis, une espèce exotique qui est présente, et même peut-être envahissante, mais qui est présente depuis des décennies, voire des siècles, on parle d'espèce naturalisée, mais est-ce qu'elle est naturalisée? Est-ce qu'elle est encore envahissante? Là encore, on a des concepts qui sont assez flous. Perméables, des zones grises. Alors, qui sont ces sceptiques ou ces dénialistes? La plupart du temps, en fait, c'est des journalistes ou alors, pas des journalistes, mais d'autres personnes qui ne sont pas dans le monde académique. Et puis, il y a de temps en temps des gens qui sont dans les mondes académiques, des universitaires, mais la plupart du temps, ce sont des chercheurs en sciences humaines et sociales, comme par exemple des philosophes. Et il y a une minorité d'écologues, vraiment une toute petite minorité, mais en général, ces écologues, ce ne sont pas des gens qui travaillent sur les invasions biologiques, qui est une spécialité à part. Alors, c'est quoi les objectifs? Alors, il y a plusieurs types d'objectifs. Le plus cynique, on va dire, ce qui ressemble le plus à tout ce qu'on a vu jusqu'à maintenant, c'est des idéologues du marché libre qui sont opposés aux appels en faveur d'une réglementation accrue du transport et du commerce des organismes vivants, de la mondialisation. Il y a des gens qui n'ont évidemment pas intérêt à ce qu'il y ait plus de réglementation là-dedans. Et puis il y a des gens qui simplement ont une méfiance à l'égard des institutions scientifiques, où on est, je vous le rappelle, dans une société qu'on appelle post-vérité, où la vérité n'est plus si importante, ou en tout cas si fixe. Et là, je dirais que c'est certainement le point le plus courant, des gens qui ont des valeurs et des perceptions qui sont contradictoires avec la nature des invasions biologiques et de ce qu'il faut faire sur les invasions biologiques, et notamment au niveau du contrôle des espèces exotiques envahissantes, donc des aspects éthiques, par exemple. Et enfin, une petite minorité de, là c'est souvent lorsque ce sont des universitaires, mais pas que, des gens qui ont besoin d'accroître leur visibilité parce qu'un message contradictoire en général va favoriser l'exposition dans la presse populaire et aussi dans certains cercles scientifiques. Et ça, ça va être fortement favorisé par cette propension qu'ont les journalistes à vouloir du débat et donc à mettre sur pied d'égalité des communautés qui ne sont absolument pas égales en nombre. Alors, où est-ce qu'ils vont s'exprimer ? Comme c'est un discours qui est souvent plus idéologique, et alors idéologique, je ne juge pas, hein, lorsqu'on a des valeurs éthiques qui sont opposées au contrôle des espèces exotiques envahissantes, c'est idéologique, mais je ne dis pas que c'est mal. Hein. Et donc ce discours, il est plus idéologique que scientifique, il est basé sur des valeurs qui sont différentes, mais qui ne sont en général pas des faits. Et en général, il s'exprime en dehors de l'examen scientifique par les pairs. Vous savez que lorsqu'on réalise une étude scientifique, on la publie dans un journal scientifique, et avant que ce soit publié, il y a des experts, deux, trois, des fois plus, qui vont regarder cette étude et qui vont dire oui c'est bien, non, là il y a un protocole qui n'est pas idéal, là il y a des tests statistiques qui ne sont pas idéaux, là il faudrait faire un contrôle supplémentaire, etc. et qui vont en général améliorer cet article ou en tout cas le valider. Et en général, ces affirmations, elles ne sont pas publiées dans ces cadres-là parce que ce sont ce qu'on appelle des articles d'opinion qui sont aussi des fois dans les revues scientifiques, mais où là, on n'a pas besoin forcément de démontrer quelque chose. Il faut juste qu'on dise « moi, je pense que ceci, cela ». Je dis pas que c'est mal, hein, mais c'est quelque chose de complètement différent. Et donc, c'est très rare que ce soit dans des travaux académiques. Et puis, le plus souvent, c'est quand même dans les médias populaires, donc dans des livres qui sont là, on peut écrire ce qu'on veut dans un livre, c'est pas du tout scrutinisé par la communauté scientifique, dans les magazines, les médias d'information, les blogs, etc. Alors, pour vous expliquer pourquoi les gens s'opposent concrètement aux invasions biologiques et pourquoi souvent c'est du dénialisme, je vais vous donner quelques arguments classiques qui sont mis en avant, et puis je vais vous donner aussi la réponse à ces arguments classiques. Et en fait, le problème de ces arguments, c'est qu'une fois qu'on les a contrés de manière officielle dans un article qui explique « non, en fait, c'est pas ça », la prochaine fois que c'est publié, en fait, c'est publié en ignorant les faits, la réponse, etc. Donc, un des arguments classiques, c'est que les impacts, ils sont fortement exagérés. En fait, il y a quasiment pas d'extinction. C'est vraiment dans les îles, ok. Dans les îles, c'est un problème. Mais le reste du temps, qui est quand même la grande majorité de la planète, il n'y a pas d'extinction. Alors, non, c'est pas que sur les îles. Hein. Il y a pas mal d'extinction sur les continents. Et si on prend par exemple l'extinction massive d'amphibiens à cause du chytride, qui est un champignon envahissant, qui a complètement décimé des espèces entières, notamment en Amérique du Sud, en Amérique centrale, on ne peut pas dire que c'est que sur les îles. En plus, les extinctions, c'est qu'un seul des 19 types d'impact écologique. Il y a plein d'impacts écologiques, vous vous rappelez, je vous en ai parlé. Les extinctions, c'est un peu ce qui se voit le plus et ce qui est un peu extrême, mais il y a énormément de choses qui peuvent être changées. Il n'y a pas que les extinctions. Et sur les continents, c'est souvent le cas. Et puis, il n'y a pas que les impacts écologiques. Il y a aussi des impacts sur la santé, sur l'économie, sur la culture, les sociétés, etc., etc. Donc cet argument, il n'est pas vraiment valable, pas plus que celui qui m'étonne toujours, mais en fait, on le voit très régulièrement, les espèces exotiques augmentent la biodiversité locale. Si vous mettez des nouvelles espèces dans un écosystème, vous avez plus d'espèces. Alors, c'est rarement le cas. Pour ça, il faut qu'il y ait plus d'espèces exotiques envahissantes que les espèces qui se sont éteintes à cause de ces espèces envahissantes. Alors, c'est arrivé peut-être à Hawaï. À Hawaï, ils ont énormément d'espèces exotiques envahissantes. Ils ont plein d'espèces qui ont disparu, mais ils ont tellement d'espèces exotiques envahissantes que si ça se trouve, ils ont une biodiversité locale plus importante. Mais ce qui est important, c'est que globalement, c'est toujours diminué. Parce que si vous introduisez une espèce quelque part, elle reste là où elle est en même temps. C'est une population seulement de cette espèce que vous avez introduite. Et vous perdez l'espèce locale, mais vous avez globalement une perte sèche. Vous n'avez pas un plus un, moins un. Certains disent que le débat devrait porter sur un seuil de dommage plutôt que sur l'origine des espèces. Et souvent, un des arguments, c'est ouais, l'origine des espèces, c'est pas important. Ce qui est important, c'est le dommage. Et il y a des espèces locales qui ont aussi des dommages. Le problème, c'est que c'est très difficile de quantifier ces dommages. Et lorsqu'on parvient à démontrer, à quantifier un dommage, ben en fait, c'est que cette espèce est là depuis très longtemps, qu'elle a établi des liens dans l'écosystème forts et délétères, et qu'il est souvent trop tard pour l'éradiquer. C'est d'ailleurs une des raisons pour laquelle les scientifiques ne sont pas tous d'accord avec le fait qu'il faut intégrer l'impact dans la définition. Parce que si vous intégrez l'impact dans la définition, une espèce devient exotique envahissante qu'à partir du moment où elle n'est quasiment plus enlevable de l'écosystème, c'est-à-dire à partir du moment où elle a causé cet impact. Et en fait, l'origine des espèces est un très bon indicateur d'absence de coévolution. Et l'absence de coévolution, ça fait qu'il y a une inadaptation des espèces locales aux espèces exotiques, et donc un impact écologique. Alors, je ne développe pas parce que ça, en fait, c'est l'objet du cours prochain et du séminaire prochain. Et d'ailleurs, j'en profite pour faire une petite parenthèse. C'est que j'ai vu sur le site internet du Collège de France qu'il y a une petite erreur. La semaine prochaine, je vous parle de chats, je ne vous parle pas de fourmis. C'est la semaine d'après que je vous parlerai de fourmis. Mais les deux sont très bien. Donc, je pense que si vous suivez tous les cours, ça ne change pas grand-chose pour vous. Il y a des arguments, et souvent des arguments d'écologues, qui disent que, en fait, l'état du monde impose maintenant l'acceptation des espèces exotiques envahissantes et des invasions biologiques dans des écosystèmes qui sont modifiés et qu'on va donc appeler des nouveaux écosystèmes. C'est trop tard, on ne peut plus rien faire, il y en a plein, il y en a trop. Alors, en fait, rationaliser la défaite ou la conciliation comme ligne de conduite, c'est quelque chose qui est moralement inacceptable. Même si dans de nombreux cas, il est possible que ce soit compliqué, on peut quand même inverser les effets dans certains cas. Et en tout cas, même si on ne peut pas, ça ne légitime pas non plus de capituler, pas plus qu'on le ferait pour le changement climatique ou pour la destruction de l'habitat. La plupart des espèces exotiques ne sont pas problématiques. Ça, vous allez certainement l'entendre si vous parlez d'espèces exotiques envahissantes aux gens, parce que c'est ce qui revient le plus souvent. Et en fait, oui, tout le monde est d'accord avec ça. Et il y a vraiment que les négationnistes qui sont encore en train de confondre espèces exotiques et espèces exotiques envahissantes. Et comme en général, ce sont des gens qui sont intelligents, c'est difficile de croire qu'ils ne font pas exprès. Cet argument, il est répété systématiquement encore aujourd'hui, alors que on se tue à répéter que oui, on sait tous qu'on s'intéresse aux espèces exotiques envahissantes, pas aux espèces exotiques. Les espèces exotiques envahissantes apportent aussi des bénéfices. Alors oui, c'est vrai, des fois, et on l'a vu la semaine dernière avec le séminaire de Anne-Charlotte Vessière. Mais ces cas, ils sont assez peu fréquents. Les bénéfices sont bien moins importants que les coûts. Ça n'annule pas les impacts pour autant. Hein. Ce n'est pas une opération comptable avec une colonne de plus et une colonne de moins. Et si vous en avez autant des deux côtés, en fait, il n'y a rien. Si vous avez des bénéfices, vous avez quand même encore les coûts. Vous avez des coûts et des bénéfices. Et puis, souvent, les bénéfices, ils vont à une catégorie de personnes qui est différente de celle des coûts. Donc, ça n'en... Non seulement ça n'enlève pas les coûts, mais ça n'enlève pas les coûts. En fait, les bénéfices et les coûts ne sont pas pour les mêmes personnes. Alors, les experts exagèrent, et ils exagèrent pour en fait obtenir des financements pour leurs propres recherches, ou alors par collusion avec les grandes entreprises de pesticides. Donc c'est en général un argument qui est mis en avant pour les gens qui luttent contre les invasions biologiques de plantes ou les invasions biologiques d'insectes. On dit « ouais, mais c'est parce que vous travaillez pour les big pharma et big agroalimentaires parce que bah, voilà, ça vous fait des sous ». En fait, ça, c'est quand même très mal connaître le système académique parce que, à part quelques cas isolés, en général, les chercheurs sont assez libres de leurs recherches et ils n'ont pas forcément plus de financement s'ils travaillent sur les invasions biologiques. Croyez-moi, c'est même plutôt le contraire. Si vous travaillez sur des invasions biologiques, c'est quand même beaucoup moins sexy que pas mal d'autres problématiques et c'est plus difficile de trouver des financements. Les espèces exotiques envahissantes n'ont rien demandé, c'est pas de leur faute en fait. Donc c'est pas juste de leur reprocher ça. C'est bien l'humain qui les a apportés. Et ça, ça revient sans arrêt. Et oui, c'est vrai, c'est vrai. Mais ce n'est pas une raison pour ne pas empêcher les invasions et leurs impacts. De la même manière qu'on ne va pas laisser une épidémie de virus ou de bactéries sous prétexte que les bactéries n'ont rien demandé et que ce sont les humains qui les propagent. C'est exactement le même argument. Et c'est pour ça aussi que j'essaye de parler plus souvent, quand je le peux, d'invasions biologiques plutôt que d'espèces exotiques envahissantes. Parce que les espèces exotiques envahissantes, je vous l'ai dit dans un cours précédent, c'est un petit peu comme si on se focalisait sur les bulldozers au lieu de la déforestation. C'est le processus qui est important. Et ça enlève un argument à ceux qui se focalisent sur le fait que les espèces exotiques envahissantes sont aussi les victimes des invasions biologiques. Et c'est vrai, elles sont aussi les victimes. Et c'est vrai qu'elles n'ont rien demandé et qu'on les met dans un écosystème qui n'est pas le leur. Les chercheurs n'aiment pas les espèces qui viennent d'ailleurs. Ils sont donc xénophobes. Ouais, ça vous fait rigoler, mais c'est tout le temps comme ça. C'est tout le temps comme ça. Et les parallèles avec la population humaine, ils reviennent tout le temps, même si, à la fois éthiquement et scientifiquement, c'est absolument pas acceptable. Et sur le fait que c'est encore un argument qui est souvent contré dans la littérature, mais ça revient encore. Vous allez le voir, je vais vous donner un exemple tout à l'heure. En fait, si la démarche scientifique insiste sur l'origine exogène, c'est parce que c'est le critère le plus pertinent, parce qu'il n'y a pas coévolution avec le système dans lequel ces espèces sont introduites et que ce manque de coévolution fait qu'il y a des impacts. Donc oui, c'est pertinent de regarder d'où viennent les espèces. Et puis, un argument qui a aussi été beaucoup mis en avant, ça s'est un petit peu calmé, puis je le revois passer, c'est que, en fait, le caractère violent, voire militaire du vocabulaire dans ce domaine, invasion, il faut lutter contre les espèces, c'est le combat contre les invasions, etc. Ça manque d'objectivité scientifique, ça montre que c'est des scientifiques belliqueux, etc. Alors en fait, invasion, ça vient du latin invadere, qui veut vraiment dire aller dedans. C'est vraiment le terme qui est consacré ici. Il n'y a pas d'autre terme qui soit plus juste. C'est pas parce que dans un autre champ sémantique complètement différent, le champ guerrier, on utilise le même terme que c'est violent particulièrement. Et quand on parle de lutte contre les invasions, c'est pas plus choquant que quand on parle de lutte contre la pollution ou de lutte contre le changement climatique. Mais on n'a jamais vu des articles expliquer que les climatologues sont des belliqueux, violents, pro-militaires, parce qu'ils parlent de lutter contre le changement climatique. Donc, en fait, c'est un petit peu compliqué des fois de dire est-ce que c'est un désaccord scientifique ou est-ce que c'est du négationnisme. Ça dépend vraiment de s'il y a beaucoup d'arguments qui ont déjà été débunkés dans la littérature et qui sont encore réutilisés, ignorés complètement, par exemple, ou s'il y a du cherry picking, ou s'il y a toutes ces autres techniques. Donc ici, je vous ai mis, vous vous rappelez de cette photo là de Jean-Yves Meyer avec des feuilles de Myconia. Myconia qui est une des pires espèces envahissantes de plantes dans le Pacifique. Donc il y a en fait un article assez célèbre qui est sorti par un écologue, donc c'est pour ça aussi que c'est un petit peu célèbre, et dans Nature, qui expliquait il ne faut pas juger les espèces par leurs origines, et qui expliquait en gros que les scientifiques des sciences des invasions, ils étaient xénophobes ou racistes, parce que leur critère principal, c'était l'origine. Ce bouquin, qu'on peut trouver dans le commerce, qui est un bouquin entre scientifiques et grand public, qui s'appelle Invasion Biology. Donc, c'est bien, mais en dessous, il y a marqué « Critique d'une pseudo-science ». Donc, en fait, c'est quelqu'un qui s'attaque vraiment à l'ensemble de la science et qui explique que les espèces exotiques envahissantes n'existent pas, tout simplement. Et à propos de ce bouquin, donc, il y a une étude qui a montré que Il y a différents positionnements face aux invasions biologiques. Il y a la négation pure et simple, ça n'existe pas, hein, c'est faux. Il y a le nihilisme, ça ne vaut pas la peine, en fait, on perd son temps, même si ça existe, c'est quelque chose qui n'est pas intéressant. Et puis il y a le cynisme, ça existe, il faut faire quelque chose, mais moi ça ne me concerne pas, donc je m'en fiche. Et en fait, le point commun, c'est que tous sont opposés à la gestion des espèces exotiques envahissantes. Et le problème du dénialisme dans les invasions, c'est que du coup, il n'y a rien qui se fait et qu'elles progressent et qu'elles sont de plus en plus difficiles à contrôler. Donc, face à ce type d'article, il n'est pas unique. Il y en a de plus en plus. Alors, ce sont, comme je vous l'ai dit, en général, des articles d'opinion, ce ne sont pas des articles scientifiques qui donnent des faits, mais le fait qu'il y en ait de plus en plus comme ça, ça donne l'impression qu'il y a une école qui pense différemment. C'est dans des articles scientifiques, dans des journaux scientifiques, ça donne une certaine légitimité à tout ça. Et en fait, il a été mis en évidence que c'est de plus en plus fréquent et que c'est vraiment du dénialisme, c'est-à-dire qu'il y a vraiment une stratégie qui est utilisée et qui utilise toujours les mêmes techniques qui sont pourtant rebutées dans d'autres articles, mais qui sont toujours là. Et c'est un problème parce que, évidemment, les études sur le changement climatique ont montré que, même lorsque c'est minime, le dénialisme peut entraver les résultats politiques, diminuer la confiance du public dans les experts et réduire la perception du public à l'égard du consensus scientifique. C'est normal, on pense qu'en fait, il y a les pour et il y a les contre, et du coup, on est bien obligé de se ranger d'un côté, enfin, on est obligé. En général, les gens le font. Et pour un petit peu ancrer dans le concret tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, pour que vous voyez que j'exagère pas forcément, je prends un exemple récent qui est sorti il y a deux mois, il est sorti mi-mars, dans le magazine Philosophie. Alors c'est un magazine, comme je vous ai dit, c'est souvent pas des articles de faits scientifiques ou dans des journaux scientifiques, mais c'est quand même des choses qui peuvent avoir du poids. Et ça, c'est en fait un article que j'ai reçu de plein de sources différentes, de gens outrés, choqués, par cet article. Et donc je me suis dit, tiens, je vais le mettre dans le cours pour un peu illustrer avec un cas vraiment concret. Mais puisqu'on parle de philosophie, je vous rappelle que tout à l'heure, nous avons un séminaire de Dr Yves Ménard, qui est philosophe de l'environnement, qui travaille à Aix-Marseille, et qui va développer tous les aspects philosophiques sur la science des invasions. Alors, il ne va pas parler de ce que je vais vous parler là forcément, mais un autre angle et de manière beaucoup plus complète. Donc, si je vous ai mentionné cet article-là dans Philosophie Magazine, c'est parce que, si vous vous souvenez ici, les techniques du déni de science qui sont utilisées en général dans des articles de déni de la science, en fait, celui-là, il fait un peu une collection. C'est un cas d'école parce qu'il reproduit toutes ces techniques qui ont été démontrées comme étant des techniques de dénialisme. Et donc, les deux auteurs, c'est difficile de leur jeter la pierre, surtout là en public, mais c'est aussi difficile de les exonérer complètement quand on voit l'article. On se dit que c'est quand même difficile de ne pas le faire exprès. Donc, je vais vous donner quelques... Je ne vais pas tous les passer en revue, hein, parce qu'il y en a beaucoup, mais je vais vous en donner de chaque catégorie pour vous montrer un petit peu le type d'exemple. Donc d'abord, on a ce qu'on appelle un faux débat. Les espèces exotiques ne sont pas toutes mauvaises. Vous vous rappelez que ça, je vous l'ai déjà dit plein de fois. Oui, on sait que c'est un faux débat. On sait que tout le monde est d'accord pour dire qu'il y a des espèces exotiques qui sont neutres ou qui sont même positives et que... Je vous avais expliqué la règle des 10%. 10% des espèces introduites seulement vont s'établir et seulement 10% des espèces qui s'établissent vont devenir envahissantes. Ça veut dire 1% des espèces introduites vont devenir envahissantes. 10% des espèces exotiques sont problématiques. Donc ça, on le sait. On le sait. Et les scientifiques, ils ont déjà tellement à faire avec les milliers d'espèces exotiques envahissantes qu'ils ne s'intéressent pas aux espèces exotiques qui sont neutres, voire qui sont positives. Et pourtant, on a encore, dans l'Arctique, dans l'immense majorité des cas, les effets de ces populations considérées comme intruses demeurent globalement positifs. Oui, on est d'accord avec ça. Et alors, le pire, c'est que les auteurs expliquent « mal nommer les choses, c'est contribuer au malheur du monde », affirmait Camus. Bah, en fait, eux, c'est ce qu'ils font. Ils nomment mal les choses. Ensuite, on a ce qu'on appelle le cherry picking en anglais, ou le picorage. Alors, qu'est-ce que c'est que le picorage ? C'est lorsque vous allez chercher dans la littérature des faits, des exemples qui vont se conformer à ce que vous dites en ignorant l'immense majorité qui dit le contraire. Ici, le gars, en fait, il dit « les cerises sont bleues ». La preuve, j'ai trouvé une cerise bleue. Et en fait, ici, on a des choses comme, en Australie, par exemple, les programmes de lutte contre les plantes dites invasives ont été levés dès lors qu'elles ont été révélées, etc. Mais ça, c'est des cas qui sont extrêmement rares et qui sont vraiment des contre-exemples. Mais le fait de ne parler que de ce cas-là et pas de tous les autres cas, surtout en Australie, c'est un peu gonflé parce que l'Australie, c'est quasiment le pays du monde, avec la Nouvelle-Zélande, qui luttent vraiment contre les espèces exotiques envahissantes, puisque ces deux pays ont évolué en isolement complet et donc sont extrêmement sensibles aux invasions des autres continents. Donc c'est quand même d'être assez mauvaise foi que de faire du cherry picking de cette catégorie-là. Troisième exemple, c'est les citations malveillantes. Alors celui-là, il m'a un petit peu énervé parce qu'il cite l'IPBES. En fait, je suis auteur de ça. Donc, en fait, il n'y a rien qui énerve plus un auteur quand on le cite à tort. Mais alors, quand on le cite pour dire le contraire de ce qu'il dit, ça, c'est quelque chose qui est assez frustrant. Et en fait, ils expliquent ici que la première menace à l'intégrité de l'environnement, nous rappelle l'IPBES, n'est pourtant pas l'intrus représenté par les espèces dites invasives, mais la dégradation croissante des conditions de vie. Alors, ce n'est pas parce qu'il y a une cause plus importante, la dégradation des habitats, que la cause numéro 2 ou la cause numéro 3 ou la 4 et la 5 ne sont pas importantes. Et l'IPBES n'a jamais dit que les espèces exotiques envahissantes n'étaient pas problématiques. Ils ont effectivement dit que la première menace au monde, c'est la dégradation de l'habitat. Mais le fait de dire, comme nous rappelle l'IPBES, ce n'est pas les invasions la première, c'est un petit peu une citation malveillante, parce que s'ils avaient été vraiment honnêtes, ils auraient dit « bon, c'est considéré comme la première dans les îles, et c'est la plupart du temps considéré comme la seconde menace pour la biodiversité de manière générale. » Quatrième exemple, la négation de la preuve. Alors la négation de la preuve, c'est tout simplement dire « ah bah, on n'a pas de preuve de ça, alors qu'on a plein de preuves de ça. » Et ici, l'exemple, c'est sur la Jussie rampante, cette plante ici qui est sur ce cours d'eau là en France, et qui dit « ces effets présumés négatifs sur la biodiversité restent à démontrer ». Mais il y a des dizaines d'études qui démontrent qu'il y a un impact, des impacts écologiques, et puis il n'y a pas besoin d'être formé de manière très poussée en écologie pour se douter qu'un cours d'eau qui est complètement recouvert comme ça d'un tapis végétal, il n'a pas le même fonctionnement qu'un cours d'eau qui n'a pas de tapis végétal. Okay. Donc là, c'est typiquement nier des choses qui pourtant, reste à démontrer. Non, ça a été démontré. Il y a énormément d'études qui le démontrent de manière absolument pas ambiguë. Là, vous avez trois choses à la fois. Vous avez le ad hominem, la fausse analogie et le faux débat. Alors, ad hominem, c'est en général, on va attaquer la personne qui fait l'argument plutôt que l'argument lui-même. Et c'est ce jeu dont vous avez parlé. Des xénophobes. Donc cet article, il est vraiment basé sur le fait que les gens qui travaillent en biologie des invasions sont des gens qui sont xénophobes parce qu'ils s'opposent à l'arrivée d'espèces exotiques qui viennent d'autres continents. Alors eux, ils sont sympas parce qu'en gros, ils disent que ce commun entre xénophobie et xénobiologie, ou bio-xénophobie, c'est probablement jamais délibéré. Et puis ils disent un peu plus loin, mais c'est peut-être inconscient, ou mais ils projettent leur xénophobie dans la bio-xénophobie. Donc, C'est aussi un argument pour dire je vous attaque pas vraiment, c'est pas de votre faute, en fait vous faites pas exprès, mais vous êtes quand même sacrément xénophobe de parler de ça. Et là carrément il parle de parler d'espèces invasives, c'est renforcer le rejet migratoire en le projetant dans la nature, alors qu'en fait ce qui se passe c'est qu'ils font exactement le contraire, ils projettent ce qui se passe dans la nature sur les sociétés humaines, alors que les sociétés humaines, ça n'a rien à voir. Là, on parle d'une espèce humaine et on parle de flux entre différentes populations d'une espèce humaine. Et on ne parle pas du tout d'impact écologique qu'il peut y avoir entre des espèces qui se déplacent dans des écosystèmes où ils n'ont pas évolué. Dernière, je crois que c'est le dernier, oui, c'est les faux experts. En fait, souvent, on se place comme expert pour avoir une autorité. Et en fait, ici, il s'agit de Gilles Clément et Jacques Tassin. Alors, vous les connaissez peut-être, ils sont assez célèbres. Et ils sont très certainement très compétents et en plus sympas. Enfin, en tout cas, moi, j'en connais un, Gilles Clément. On s'entend plutôt bien quand on ne parle pas d'espèces exotiques envahissantes. Mais c'est un jardinier. Un jardinier célèbre, certes, qui est très médiatisé, mais c'est un jardinier. Jacques Tassin, c'est un agronome, c'est pas du tout quelqu'un qui travaille en biologie des invasions. Mais qui pourtant, régulièrement, publie des choses dans ce sens. Donc les deux sont présentés comme les deux spécialistes du vivant. Bon, c'est assez large, hein, spécialiste du vivant. Hein. Le brave monsieur, là, il est spécialiste du vivant, mais il n'est certainement pas spécialiste des invasions biologiques. Donc en fait, ce recours à des personnalités dont la légitimité dans le débat peut être contestée, ça correspond vraiment à une technique qui est reconnue. Lorsqu'on a un météorologue célèbre qui milite, on va dire, contre le changement climatique, en fait, on a l'impression qu'il est expert, mais il n'est pas expert. Il n'est pas climatologue, il est météorologue. C'est quand même assez différent. Voilà. Et donc, on en revient avec les faux experts à ce monsieur qui a créé un bouquin sur la critique de la pseudo-science. En fait, c'est... d'abord, c'est un biologiste indépendant, ça veut dire que c'est pas un scientifique qui a réussi à trouver un poste dans le monde académique. Il est à son compte chez lui, ce qui veut dire qu'il n'est pas forcément contrôlé par les règles académiques classiques. Et puis, en fait, il fait de la conservation du matériel génétique. Il n'est pas forcément spécialiste de l'écologie des invasions. Alors, pourquoi il fait ça? Bon, alors, juste peut-être une des raisons. Son bouquin... d'occasion, il se vend $120. Je ne sais pas combien il se vend en neuf, mais et si on regarde un petit peu sur son site web, en fait, il fait commerce du fait qu'il se place à contre-courant et qu'il peut rencontrer énormément de visibilité, enfin avoir énormément de visibilité du fait qu'il est contre tout le monde. Voilà. Alors, je voudrais insister sur le fait que les auteurs ne sont pas forcément toujours cyniques. Il se peut qu'ils soient de bonne foi sur un ou l'autre des arguments. Bon, on a vu quand même que dans le point précédent, l'article précédent, avec la collection quand même, et je vous ai donné qu'un échantillon, sera un article de 2 pages ou de 3 pages. Hein. Le se concentrer de techniques de dénialisme, c'est quand même assez compliqué de penser que ça a été fait dans la rigueur et en essayant d'être objectif. Le problème, en fait, il vient souvent du point de vue du faux expert. Lorsqu'on n'est pas expert d'un domaine, c'est assez facile de se tromper parce qu'on va prendre un point de vue idéologique plutôt qu'un point de vue scientifique puisque cette science, ce n'est pas notre science. Et donc ici, par exemple, le point de vue idéologique, c'est les espèces envahissantes ne sont pas mauvaises, elles sont juste dénigrées du fait d'un lien entre xénophobie et bio-xénophobie. Ce n'est pas les espèces envahissantes qui sont un problème, c'est les gens qui travaillent sur les espèces envahissantes qui sont tellement xénophobes qu'ils ont projeté leur xénophobie sur ces espèces-là. Alors qu'en fait, pour être un biologiste des invasions moi-même, mais pour en connaître pas mal, en général, s'il y avait un sentiment envers ces espèces, c'est plutôt un sentiment d'admiration pour des espèces qui arrivent à relever des défis assez incroyables de s'établir et de prendre le pas sur tout un écosystème. Non, je ne devrais pas avouer ce genre de choses, mais je dirais que c'est plutôt dans ce sens-là que ça va si ce n'est pas neutre. Et donc le rappel, c'est que dans la quasi-totalité des cas, les articles de déni des invasions sont des textes d'opinion. Ce n'est pas des études scientifiques qui vont démontrer des faits. Donc ça, c'est important. Et donc, une des choses que ça crée, c'est qu'il y a un effort constant de réponse avec toujours des articles comme ça qu'il faut remettre constamment sur le pour essayer de lutter contre ce flot de déni. Donc par exemple un article ici qu'on a fait avec une collègue qui est là dans la salle qui explique que en fait toutes les études sur les coûts que vous avez vues la semaine dernière qui ont été faites, en fait c'est complètement biaisé parce que vous n'avez pas fait exactement la même chose sur le bénéfice. Donc nous on explique que en fait, les coûts sont immensément plus élevés que les bénéfices, même si des fois il y a des bénéfices pour certaines espèces exotiques envahissantes. On ne parle pas des espèces exotiques, des espèces exotiques envahissantes. Les coûts ne sont pas annulés par les bénéfices, comme je vous l'avais dit, et les coûts ne sont pas subis par les mêmes personnes. Mais surtout, c'est un espèce de cynisme que de dire « mais vous ne pouvez pas parler des coûts des invasions biologiques si vous ne parlez pas des bénéfices, sinon vous êtes biaisé. » Parce que toutes les études qui parlent du coût pour la société, du changement climatique, de la déforestation ou de la pollution, j'ai jamais vu des gens qui s'élevaient en disant « ah mais vous n'êtes pas objectif, vous n'avez jamais parlé des bénéfices de la pollution ou des bénéfices de la déforestation ou du changement climatique, et pourtant ils existent. » Bon, je m'aperçois que j'ai été particulièrement lent jusqu'à maintenant, donc il va falloir que je me dépêche un peu. Donc, contrairement au changement climatique, aux cigarettes, aux pesticides, il n'y a pas forcément un agenda politique, économique ou religieux derrière le déni des invasions biologiques. Et donc, on peut se demander, mais alors pourquoi ? Pourquoi est-ce que il y a cette résistance, et y compris cette résistance par certains scientifiques, s'il n'y a pas un agenda derrière. Et là, on passe à la troisième partie où je vais carburer pour essayer de rattraper le retard. Donc, je me suis posé la question pourquoi pendant quelques temps et avec mon équipe, on a réuni en fait 24 particularités qui rendent les invasions biologiques plus difficiles à comprendre, à alerter, à soutenir et à mettre en œuvre que le changement climatique ou la pollution. C'est en fait un moteur de perte de biodiversité très particulier. Donc ces quatre composantes ont en fait tout un tas d'arguments, chacun, pour comprendre, alerter, soutenir et mettre en œuvre. Je vais aller assez vite là parce que l'objectif c'est de vous montrer qu'il y a plein de choses, plus en vous bombardant d'informations, pas forcément pour que vous les reteniez. De toute façon, vous pouvez toujours aller voir l'article si jamais. Donc comprendre, pourquoi c'est plus difficile de comprendre les invasions biologiques que la déforestation ou la pollution. La pollution, c'est assez simple, c'est pas bon pour la santé, on meurt. Les invasions biologiques, en fait, c'est des concepts qui sont souvent assez peu compris, c'est des choses qui sont assez complexes. J'ai essayé de le mettre un peu en avant dans ma leçon inaugurale. On manque de scénarios, on n'a pas les scénarios comme pour le changement climatique qui permettent de vraiment bien comprendre dans sa tête comment les choses se passent, où vont se passer. On a des définitions qui sont assez floues et puis on a plein de termes différents, espèces exotiques, introduites, exogènes, étrangères, invasives, etc. Ce qui fait que les gens se perdent un petit peu dans tout ça. En plus, ces définitions dépendent du domaine écologique dans lequel on les étudie, ce qui fait que c'est difficile de parler avec des chercheurs d'autres domaines parce que on parle pas de la même chose. Les concepts, je vous avais parlé tout à l'heure, est-ce que les espèces qui ont un impact sont invasives ? Est-ce que celles qui viennent par le canal de Suez le sont ? Est-ce que celles qui sont là depuis longtemps le sont ? Est-ce que les espèces qui bougent avec le changement climatique sont des espèces invasives ? Donc on a des concepts qui sont en plus en évolution. Et enfin, on a des cadres de pensée qui diffèrent selon les approches scientifiques. Et un exemple, c'est l'abeille domestique qui vient de l'Est de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, qui est donc exotique et qui, dans plein de cas, est invasive parce que c'est un compétiteur des pollinisateurs et un compétiteur très sévère et qui, en plus, pollinise moins bien que les pollinisateurs sauvages. Mais pourtant, on la voit toujours très positivement, alors que j'ai mis un exemple ici du même groupe, mais il y en a plusieurs, la mégachile géante, qui est américaine, qui est arrivée en Europe récemment. Il n'y a aucun impact qui n'a jamais été démontré. Mais il y a aux États-Unis une étude qui a montré une interaction sur une fleur où la mégachile empêchait un autre hyménoptère de venir se polliniser. Et donc, c'est devenu quelque chose de très négatif, alors que ça, ça ne l'est pas et que ça pourrait l'être. Au niveau de la communication, c'est aussi très très difficile parce qu'on a tout un tas de catégories, et notamment comment on mesure les impacts, ils mettent très longtemps avant d'arriver. C'est, en général, on s'en fiche un petit peu des impacts écologiques. C'est très très graduel, c'est rarement remarqué. C'est difficile à quantifier et à démontrer dans un système écologique qu'il y a un impact. Il fallait mesurer avant, puis il faut mesurer après. Il faut qu'il n'y ait aucun autre changement en même temps. Donc c'est quelque chose d'assez difficile de mesurer ces impacts. C'est difficile d'anticiper ce qui va se passer. Toutes les espèces introduites ne deviennent pas établies, toutes les espèces établies ne deviennent pas envahissantes. Et malheureusement, pour l'instant, on n'en est pas encore pour bien prédire ça. C'est compliqué. On va quand même voir ça dans le cours numéro 5 et le séminaire numéro 5 sur ce qu'on appelle les traits écologiques, et notamment avec les fourmis. On n'a pas de règles générales, comme c'est le cas sur le climat, par exemple, et on traite souvent au cas par cas, en dehors de cadres conceptuels, même si depuis quelques années, on commence à faire un gros effort de ce côté-là, ça manque encore. Pour l'instant, on dit, si une espèce est invasive, autre part, on la surveille quand elle arrive, sinon, on attend et on voit. Les invasions biologiques, c'est très particulier parce que c'est des échelles locales. On est intéressé, nous, par le frelon asiatique, par la fourmi d'Argentine, par le ragondin. Mais est-ce que vous savez quelles sont les espèces envahissantes sur les autres continents? Non. En général, on ne sait pas trop. On connaît les problèmes locaux. Le changement climatique, c'est un peu partout pareil. Hein. Et puis, il y a plein de systèmes qu'on ne connaît pas. Est-ce que vous avez déjà entendu parler des vers de terre envahissants? Est-ce que vous savez qu'en Amérique du Nord, suite à la dernière glaciation, quasiment tous les vers de terre ont disparu? Il n'y a plus d'espèces de vers de terre, par quelques rares exceptions, en Amérique du Nord. Et toutes les espèces de vers de terre qu'il y a maintenant en Amérique du Nord, ce sont des vers de terre envahissants. Et c'est un problème parce que les forêts, ou les sols en tout cas, sont très différents en Amérique du Nord, parce qu'ils n'ont pas ces vers de terre. Et donc, la végétation est différente. Maintenant, si on introduit des vers de terre, ça fait des effets écologiques importants dont on n'entend pas parler, parce qu'il y a plein de systèmes qu'on connaît beaucoup moins bien que les autres. Et puis, c'est une menace vraiment multiface. Ici, je vous ai mis les 100 espèces exotiques parmi les pires, mais rappelez-vous qu'il y a au moins 3500 espèces exotiques envahissantes dans le monde. Qu'on a déjà bien identifié. Donc c'est plus difficile de se faire une idée parce qu'il y a plein d'espèces différentes. Au niveau d'obtenir le soutien du public ou des porteurs d'enjeux, c'est difficile parce qu'il y a souvent cette confusion entre invasive et envahissante et exotique, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Il y a aussi beaucoup d'espèces exotiques qui sont charismatiques. Est-ce qu'on ne voudrait pas avoir toutes ces espèces un peu partout? C'est sympa d'avoir des perruches à collier. Alors ça, c'est pas une perruche à collier. Des perruches à collier qui sont dans nos jardins, dans nos bosquets, et qui nous rappellent un petit peu d'exotisme. On parlera des chats donc dans le cours suivant. Espèces très charismatiques et problématiques. Et puis, c'est quand même la cause de perte de biodiversité qui comporte de la biodiversité. Donc ça veut dire que pour protéger la biodiversité, il faut lutter contre la biodiversité. Et si on n'a pas fait les choses bien, c'est-à-dire agi pour empêcher les espèces d'arriver, il faut les enlever. Et les enlever, quand c'est des animaux, ça veut dire souvent les éliminer. C'est bon, il n'y a pas d'autre possibilité. Et donc, il y a une réticence bien compréhensible à éliminer ces animaux. Rappelez-vous l'exemple de l'écureuil gris arrivé en Italie. Et puis, plein d'autres que je vous passe, mais par exemple, on n'a pas une victime iconique comme il y a pour le changement climatique. L'ours blanc, la pollution, alors le mazout, il y a les oiseaux marins, le plastique, il y a les tortues, la destruction de l'habitat, souvent il y a le orang-outan, la surexploitation, on a soit les poissons, soit les thons par exemple, etc. Et on visualise bien cette victime iconique pour les invasions biologiques, il n'y a pas, et ce qui fait qu'on a du mal plus à se projeter au niveau perte de biodiversité. Alors ça, c'est un travail qu'on a fait dans mon équipe qui est en pause pour l'instant, pour des raisons de manque de main-d'œuvre, donc il faut qu'on recrute des gens pour le faire, mais on est en train d'essayer de voir si on ne pourrait pas avoir une espèce un peu iconique, menacée par les espèces exotiques envahissantes, qui pourrait permettre de communiquer un peu mieux. Et puis, le dernier point, c'est que c'est très difficile à mettre en œuvre. C'est très difficile parce que la nature est très puissante, très résiliente et qu'elle redémarre tout le temps. Et par exemple, les succès, ils ne sont jamais finis. Après une réduction de 80% des populations de chèvres, en fait, il faut juste 4 ans pour qu'elles reviennent exactement au même niveau. Si vous n'avez pas éliminé jusqu'aux dernières, ça repart en 4 ans. Quand vous éliminez les rats du Nil, si l'île elle est à moins de je sais plus combien, 1 km du Nil où il y a des rats ou du continent, bah les rats ils vont revenir à la nage. Et donc c'est particulièrement pénible et puis c'est difficile de trouver des financements pour faire quelque chose qui soit doit être dans le long terme, soit n'a aucune garantie de succès définitif. Voilà, donc on a toutes ces choses-là. Alors, je vous ai mis ici le code barre, le QR de l'article, si jamais vous voulez aller le voir, parce que j'ai passé assez vite. Et puis aussi parce que on a mis des solutions. En face de chaque problème, on n'est pas sadique, mais je ne les passerai pas là parce que pour des raisons de temps. Voilà, alors pour terminer, cet article, il expliquait qu'on a un modèle de communication qui doit être adapté à tous ces types d'intervenants qui sont très très différents. Si vous avez par exemple l'industrie du tourisme, si vous avez le lobby de la chasse, si vous avez les organisations de protection de l'environnement, c'est une espèce de gradient qui va de adversaire de tout ce qui peut être contraignant et qui est recommandé pour lutter contre les invasions biologiques, jusqu'à des soutiens. Et du coup, il faut avoir des communications, des stratégies de communication différentes si on veut qu'elles soient améliorées. Elles doivent quand même être améliorées sur des points de vue différents. Et en fait, le modèle de communication qu'on a jusqu'à maintenant et sur lesquels les biologistes des invasions ont vraiment tout le temps insisté, c'est ce qu'on appelle le modèle de déficit des experts vers les récepteurs, par exemple la société. Et en fait, ce qu'on a toujours pensé, c'est qu'on ne communiquait pas assez. Et que c'est pour ça qu'il y avait toujours ces problèmes. Et que donc, il fallait augmenter le transfert d'informations. Alors qu'en fait, nous, on pense qu'il faut changer vraiment ce modèle de communication. Et qu'on parle d'un modèle de dialogue avec vraiment un véritable échange avec le public qui va reconnaître et intégrer les différences de connaissances, de valeurs, de point de vue et d'intérêt, parce que une différence de valeur, c'est difficile de contrer par de la logique, c'est des valeurs. Voilà, en conclusion, le dénialisme existe en biologie des invasions comme ailleurs. Il est assez peu motivé par un agenda politico-économique, il est plus souvent animé par des motivations éthiques, et puis par les 24 difficultés des invasions dont je vous ai parlé très brièvement. Il pénalise les actions de lutte contre ces invasions biologiques. Et enfin, une éducation et une transparence scientifique sont les solutions vraiment évidentes. Alors, maintenant qu'on a vu l'importance des invasions biologiques, et on va essayer de voir avec un exemple précis, plusieurs études qui sont focalisées sur un exemple assez emblématique, le chat domestique, eh bien, on va voir qu'en fait, c'est compliqué. Même si jusqu'à maintenant, ça allait toujours dans un sens. D'ailleurs, c'est compliqué. Mais avant ça, nous avons la joie d'avoir un séminaire juste après une courte pause publicitaire qui va être sur la philosophie et comment la philosophie peut appréhender ce domaine des sciences des invasions. Voilà, donc je voudrais remercier les principaux collaborateurs qui m'ont aidé à faire toutes ces études dans mon équipe, il y en a évidemment plein d'autres en dehors. Et je vous remercie, vous, pour votre attention.
Collège de France, le savoir en illimité. Retrouvez tous nos contenus audio et vidéo sur notre site collège-de-france.fr, les plateformes de podcast et nos chaînes YouTube.